Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le journaliste d'investigation Pierre Abramovici est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Pierre Abramovici est, vous le savez, l'un des hommes qui s'occupe en France des affaires sensibles. Il vient de publier chez Nouveau Monde un passionnant ouvrage sur Mendel Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, un juif d'origine russe, détenteur d'un passeport allemand et qui a été retrouvé mort, semble-t-il, à Madrid en juin 1945. Or, ces énormes magots, ces escroqueries auraient dépassé en importance celles du célèbre Johannovici, et je pense que ce que nous avons à vous raconter aujourd'hui devrait en surprendre plus d'un.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien, posée sur le site internet d'Europe 1. Julien voudrait savoir si la façon de parler des Québécois d'aujourd'hui reste proche de celle des Français du temps de Louis XIV.
Et ça, c'est une vaste et complexe question à laquelle je vais tenter d'apporter une réponse. Je vous avoue qu'en travaillant le sujet, j'ai moi-même appris des choses assez étonnantes. Pour le moment, je vous propose de rouvrir le dossier Skolnikov en commençant par un chapitre épineux, l'incroyable affaire de l'hôtel Martinez à Cannes.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ne serait-ce qu'à travers le Festival de Cannes, tout le monde a entendu parler de ce fabuleux palace de la Côte d'Azur qu'est l'hôtel Martinez, aujourd'hui dans le groupe Hayat. Sa pure architecture art déco, ses harmonies blanc et or et ses palmiers, ses suites avec balcon et vue sur la Grande Bleue, sa plage privée évidemment, sont connues dans le monde entier. À l'origine de cette merveille, il y a un des pontes de l'hôtellerie cannoise, un Sicilien d'origine espagnole, Emmanuel Martinez, qui a fait construire cet hôtel à la fin des années 1920. Martinez a vu très grand et du coup, il s'est beaucoup endetté. Or, durant la Seconde Guerre mondiale, alors que son palace est en partie réquisitionné, tour à tour par l'armée française, l'armée italienne et surtout l'armée allemande, évidemment, en attendant les Américains, Martinez entre en relation suivie avec un certain Mendel Skolnikov, un homme d'affaires assez louche, très influent et qui traite directement avec les Allemands. À la libération, Emmanuel Martinez sera accusé de collaboration. L'hôtel sera mis sous séquestre et lui, certes, sera acquitté quelques années plus tard, mais il n'en mourra pas moins ruiné en 73 sans que son hôtel lui ait jamais été restitué. Or, si l'on en croit l'enquête menée par Pierre Abramovici et relatée dans ce livre « Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation », Martinez n'a jamais été le complice de Mendel Skolnikov. Qui, à la tête de multiples sociétés immobilières et hôtelières siégeant à Monaco, avait pris la direction de la plupart des palaces de la Côte d'Azur, précisons-le tout de même. Alors, ai-je besoin de vous rappeler que durant l'occupation, les Allemands ont fait main basse sur la grande hôtellerie française? Dans un rapport de l'été 1942, le patron de l'industrie hôtelière s'en plaint d'ailleurs aux autorités françaises, je cite la lettre en question. Depuis un certain nombre de mois, et plus particulièrement depuis 7 à 8 semaines, on est donc à l'été 42, août, les autorités occupantes semblent vouloir s'intéresser à l'industrie hôtelière et prendre dans nos sociétés importantes certaines participations. À l'heure actuelle, ajoute ce patron de l'industrie hôtelière, l'action des autorités occupantes est dirigée sur nos grands établissements de la Côte d'Azur. Plusieurs voyages de personnalités de l'administration et de l'hôtellerie allemande dans cette région laissent entrevoir que nous approchons d'un dénouement. L'objectif des nazis, selon Pierre Abramovici, c'est de créer une chaîne d'hôtels qui canaliserait en France tout le courant touristique. Et tout ça, naturellement, obéit à un plan concerté. Il s'agit d'acheter des hôtels sur la Côte d'Azur, puis à Paris, puis sur la Côte Basque, en attendant de s'attaquer à d'autres zones touristiques françaises comme Deauville ou le Touquet. Dans le sud-est, plusieurs groupes hôteliers de luxe sont visés en priorité par les Allemands. D'abord, la Société des Hôtels Réunis, qui déjà est sous le contrôle d'un administrateur allemand, mais pas véritablement dirigée par l'occupant. Ensuite, les hôtels de Pierre Bermond. Pierre Bermond est un avocat homme politique de Nice qui possède quelques fleurons et dont le groupe hôtelier est, pendant la guerre, le plus important de France. Enfin, quelques grands hôtels indépendants, le Majestic à Cannes, mais aussi le Martinez, évidemment, et puis le Miramar et le Rulle à Nice. Tous les quatre, Martinez, Majestic, Miramar et Rulle, et ça c'est très important, tous les quatre sont débiteurs soit directement de la Société foncière du Nord, soit de porteurs d'obligations hypothécaires qui ont été émises par cette Société foncière du Nord. À noter du reste que les sociétés contrôlées par Pierre Bermond sont également créancières de la foncière du Nord. Or, et c'est là que les choses se compliquent un petit peu, cette fameuse foncière du Nord a fait faillite. On a confié son cas à un syndic qui s'appelle Monsieur Planck, ça ne s'invente pas, et qui se trouve donc contrôler la majorité des hôtels de luxe français, notamment sur la Côte d'Azur. Donc vous voyez, cette société qui est créancière se trouve par ailleurs en grande difficulté. Voilà donc le paysage pour le moins précaire, voilà si j'ose dire la proie toute désignée à laquelle les Allemands vont s'attaquer. Quand je dis les Allemands, il faut bien que quelqu'un s'en charge pour leur compte. Eh bien, ce quelqu'un, vous l'avez compris, c'est le fameux Skolnikov. Skolnikov est un pragmatique. Il n'y va pas par quatre chemins. D'emblée, il va se fixer pour objectif de racheter tout simplement la Société foncière du Nord en si grande difficulté. Pierre Abramovici parle dans son livre, je cite, de l'extraordinaire clairvoyance de Skolnikov. On s'étonne qu'il soit capable d'en savoir autant que les experts italiens et allemands sur l'exposition financière de l'hôtellerie française auprès de créanciers hypothécaires comme la Société foncière du Nord ou le groupe Bermond. Le tout en un laps de temps extraordinairement court. On s'étonne parce qu'on ne le connaît pas, ce Mendel Skolnikov. Mais qui est-il d'ailleurs? Eh bien cet homme d'affaires, voilà une appellation bien pratique, hein, quand on dit homme d'affaires, on n'a pas besoin de définir beaucoup plus. Voilà un personnage qui est connu en France sous le prénom de Michel Skolnikov. Il est issu d'une famille de riches industriels russes. Il est né tout au début du règne de Nicolas II, le 28 janvier 1895, dans une bourgade biélorusse, aujourd'hui nommée Charkovchina. On n'est pas très loin de la frontière lituanienne. Il est un des quatre enfants de la famille. En 1923, donc comme il est né en 95, en 23, il a 28 ans. Il épouse une certaine Raïssa de confession juive. Lui-même se dit orthodoxe, mais les Allemands seront persuadés qu'il pratique en fait le karaïsme, c'est-à-dire un courant du judaïsme. On va revenir évidemment sur cette question tout à l'heure avec mon invité. Ce qu'il y a de fascinant à propos de Skolnikov, c'est son parcours pour le moins semé de zones d'ombre. On connaît surtout ses activités grâce à un document de police établi à Paris en 1945. De nouveau Pierre Abramovici. La vie de Skolnikov est d'abord une série de légendes plus ou moins vérifiées, plutôt moins. Ce qu'on sait ou croit savoir, c'est qu'à 20 ans, il a été grossiste en tissu pour l'armée du tsar, d'ailleurs considéré comme fournisseur de l'armée impériale. À 28 ans, il exploite une banque en association avec son père. Il y fait du reste une fortune rapide. Attention, on ne parle pas ici d'un banquier réglo, si je puis dire. Skolnikov navigue toujours entre deux eaux. Il est volage, fluctuant, capable de coups tordus, joueur, passant de la fortune à la pauvreté. Vraiment un drôle de bonhomme. C'est en 1933 qu'il arrive en France comme réfugié russe apatride. Il faut savoir qu'à l'époque, le régime soviétique avait révoqué la nationalité de tous les émigrés. Il s'épanouit dans le négoce de textile. En France, il a d'ailleurs sa propre société qui s'appelle Textima, une société qu'il mène avec son frère, appelée en France Grégoire. Ils se sont installés à Paris, dans le quartier du Sentier, et font de l'achat et de la vente de tissus soldés, défraîchis, de seconde main. Enfin, on voit bien tout à fait le genre de commerce qu'il peut faire. Est-ce que ces affaires sont florissantes? C'est difficile à dire. Sa femme évoque en tout cas des sommes considérables au moment de leur divorce, mais lui, en octobre 1935, est condamné en même temps pour chèque sans provision. Après tout, l'un n'empêche pas l'autre. Vous avez compris que nous n'avons pas affaire à quelqu'un d'honnête. La preuve, le 16 juin 1937, il est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine, après quoi il est condamné de plus belle, cette fois pour exercice illégal du métier de banquier. Bref, en tant qu'étranger indésirable, c'est la loi de l'époque, il devrait être expulsé du territoire. Seulement voilà, sa condition d'apatride le rend impossible à expulser. On va donc se contenter de le placer sous surveillance. En attendant, Skolnikov fournit du tissu à la marine de guerre allemande. Textima devient même le fournisseur attitré de la Kriegsmarine, ce qui en période de guerre est plus que juteux. Au deuxième trimestre 1940, les avoirs bancaires de la société sont multipliés par 5. Il faut bien faire quelque chose de tout cet argent. Eh bien, Skolnikov choisit de l'investir dans des immeubles et dans des hôtels, avec une nette prédilection pour Monaco et Paris. Vous n'avez pas oublié le contexte. Les Allemands sont en pleine opération de razzia sur la France. Göring a chargé un puissant financier qui s'appelle Kreuter d'acheter un maximum d'entreprises en France. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Skolnikov va se substituer à Kreuter. Il achète à tout va pour les Allemands et il le fait à travers un certain nombre de sociétés monégasque.
Shostakovich sur Europe 1, un extrait de Romance, extrait de la bande originale du film soviétique Le Temps, dirigé par Ricardo Chailly. Nous revenons à l'affaire de l'hôtel Martinez avec vous, Franck Ferrand.
Alors, un des hommes clés de Mendel Skolnikov, c'est Gustave Petit, qu'on connaît à l'époque sous le nom de Petit Nouvelon. Nouvelon est le patronyme de sa mère. C'est lui qui gère les achats hôteliers et immobiliers de Skolnikov. Il faudrait citer aussi, c'est pas pour le plaisir d'accumuler les noms propres, mais vous allez voir qu'il revient dans notre affaire, citer Nicolas Blanchet, qui est le bras droit de notre homme. Alors, je vous l'ai dit, Skolnikov a maintenant l'intention d'acquérir la foncière du Nord. Oh, sa technique n'est pas compliquée. Il va s'attaquer aux hôtels débiteurs. Il vise d'abord l'hôtel Ruhl à Nice, dont il achète 90% des actions détenues par la foncière du Nord, ainsi que le passif du Ruhl pour 40 millions de francs. Ensuite, il achète le Majestic, qui appartient à la société des grands hôtels de Cannes, donc endetté auprès de la foncière du Nord. Après quoi, Skolnikov, via toujours un petit nouvelon, je ne précise pas, va pouvoir s'attaquer au Martinez. Le fondateur, Emmanuel Martinez, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il était originaire de Sicile, et c'est un ressortissant italien. Je vous ai dit qu'il essuyait de très graves revers financiers. Il faut savoir qu'en plus, un étage entier de l'hôtel du Martinez a été réquisitionné par les Allemands. C'est peu dire que le chiffre d'affaires baisse. Vous connaissez le processus, les dettes s'accumulent, notamment celles détenues par la foncière du Nord. Emmanuel Martinez, par ailleurs actionnaire du Majestic et du Savoy à Cannes, a de gros problèmes de liquidité. Or, évidemment, personne ne veut plus lui prêter un centime. C'est toujours comme ça, c'est la vie des affaires. Pourtant, et en dépit de tous ces problèmes financiers, Emmanuel Martinez n'entend pas céder la direction de l'hôtel qui porte son nom. Ce sera, nous dit Pierre Abramovici, ce sera sans doute la cause fondamentale de ses ennuis. Le naufragé s'agrippe à sa planche, vous savez, mais il a bien vu l'aileron du requin qui fait des cercles de plus en plus resserrés autour de lui. Skolnikov est là, qui rôde, il attend son heure. Or, il n'est pas du genre patient. D'autant moins patient qu'il a un atout de poids, Skolnikov. Lors de l'achat du Majestic en février 43, il a corrompu Marius Bertagna, qui est secrétaire général des deux hôtels, Savoy et Majestic, à Cannes. Il lui a donné 5 millions de francs en liquide pour ses menus dépenses. Or, ce monsieur Bertagna est aussi, entre autres responsabilités, secrétaire général du Martinez. Emmanuel Martinez commence à saisir les intentions du requin Skolnikov au printemps 1943. Le 28 juin de cette même année, lors du conseil d'administration de la société propriétaire du Martinez, le bras droit de Skolnikov, donc le fameux Blanchet, est là, présent. On l'imagine, costume croisé, bras croisés. Blanchet représente un mystérieux administrateur, porteur de 10 000 actions acquises en dehors du Martinez. Emmanuel Martinez va vite mettre un nom sur cet acheteur anonyme, c'est Skolnikov, évidemment. Or, il est au courant d'une rencontre entre Blanchet, donc le bras droit de Skolnikov, et ce corrompu de Bertagna, avec pour cible le Martinez, évidemment. Dans ces conditions, Emmanuel Martinez décide d'aller voir Skolnikov sans détour. Le tête-à-tête prend place à l'hôtel Windsor, qui est déjà propriété de Skolnikov à l'époque. Il a été décrit, non sans maladresse de style, vous allez le voir, par le petit-fils de Martinez, je cite. Dans l'embrasure de la porte, vint s'encadrer une personne d'une taille colossale. À contre-jour, Emmanuel découvrit le faciès grossier et laid de cette forme. Si l'instant n'était pas si dramatique, pensa Emmanuel, il aurait eu l'impression de se retrouver dans un conte de fées, à la minute d'être dévoré vivant par un méchant ogre. Malheureusement pour lui, le moment n'était pas aux enfantillages. La bouche de l'homme, prête à lui adresser la parole, dessina une sorte de rictus malsain à l'instant même où une voix caverneuse, à forte connotation d'Europe centrale, sort des profondeurs de ce corps, hors de la normale, et Skolnikov en ogre d'aboyer et de lui tendre une main d'assassin. Je cite à ce propos Pierre Abramovici. « Une telle description, nous dit-il, est évidemment grotesque et dessert le propos de son auteur que seule excuse l'affection portée à son grand-père. » Naturellement, Skolnikov ne ressemble en rien à un tel portrait. Philip Kenny, donc le petit-fils, n'a jamais rencontré Skolnikov. Il n'était pas purement, et a purement et simplement inventé la scène. Vous saisissez le but, en tout cas, de cette rencontre. Il est transparent. Martinez est venu négocier un prêt qui lui permettrait de garder son hôtel, de ne pas le vendre. Or, Skolnikov acquiesce. Les deux hommes signent pour un prêt de plus de 19 millions de francs à l'époque. Engage forcément, Martinez délivre à Skolnikov des actions de sa société. C'est fondamental, ça. Techniquement, Skolnikov devient donc actionnaire de l'hôtel, mais sans en prendre le contrôle effectif. Ça, c'est la bouffée d'oxygène qu'attendait Martinez, qui va rembourser très vite sa dette dès le 28 août, en échange de quoi il récupère ses actions. La vérité, c'est que, bien loin de redouter un ogre, à cette époque-là, Martinez ne se méfie pas de Skolnikov. En tout cas, il ne s'en méfie pas suffisamment.
Rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur l'incroyable affaire de l'hôtel Martinez.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au dossier Skolnikov avec l'affaire de l'hôtel Martinez.
Alors à la libération, Skolnikov sera accusé de collaboration avec l'ennemi nazi. Vous allez me dire, c'est bien le moins. Ses biens sont placés sous séquestre. Il est aussi condamné à verser à l'État la somme de 3,9 milliards de francs de l'époque, ce qui est absolument colossal. On va venir évidemment sur ce que représente cette gigantesque fortune. On est en pleine épuration à l'époque et le journal L'Ergo de Nice, parmi d'autres têtes de Turc, prend à partie Emmanuel Martinez. Voilà ce qu'on pouvait lire le 2 décembre 1945 dans un article qui affirme que Martinez était le lieutenant de Skolnikov. Accusation implacable, je cite. « Monsieur Martinez, pour des raisons qui lui sont personnelles sans doute, fit alliance avec le fameux Skolnikov. Mais un autre pacte fut sans doute conclu entre le grand Skolnikov et l'obséquieux napolitain. Quels furent les termes de ce terrible secret? Sans doute Martinez concédait-il à Skolnikov une part importante du gâteau Martinez, en retour de quoi Skolnikov s'engageait très probablement à céder à son lieutenant une part de divers autres gâteaux. » Vous avez vu le nombre de « probablement, sans doute » qu'on peut lire à chaque ligne de cet article plein d'ironie fielleuse. Ce qui a braqué les anciens résistants contre Martinez, c'est qu'il s'est enfui en Italie. Je vous ai dit, il était ressortissant italien, il s'est enfui avec sa femme au moment de la libération, il a été activement recherché. En septembre 1944, un groupe de partisans de la Côte d'Azur l'a condamné à mort par contumace. Cette condamnation n'a certes aucune valeur légale, mais elle vous donne une idée du climat ambiant. Un commando déguisé en soldat américain, voyez le genre, s'est lancé à la recherche de Martinez. Finalement, ceux qui vont le retrouver sont des hommes qui se réclament du deuxième bureau. Ils vont décider de le garder en otage 3 jours dans une sorte de prison clandestine avant de le relâcher. Et à ce moment, Martinez découvre qu'on lui a volé une grosse somme d'argent, plus de 180 000 francs en espèces, ainsi que tous ses bijoux. Il craint que les voleurs ne soient à la recherche des actions de son hôtel, qui ont été soigneusement cachées dans une banque milanaise, et finalement le couple file jusqu'à Rome pour se rendre aux autorités italiennes, qui sans embâge décident le transfert vers la France. Pendant cette escapade, les nouvelles autorités françaises ont fait interroger le fameux Marius Bertagna, vous savez, celui qui avait été acheté par les gens de Skolnikov, et celui-ci affirme, je cite, qu'il n'a jamais vendu ses actions au Dissier Skolnikov et que Martinez était toujours jusqu'à son départ le propriétaire de son hôtel. Fin 1944, le procureur de la République du tribunal de Grasse décide la mise sous séquestre des biens personnels de Martinez, puis de ses parts dans la Société des Grands Hôtels de Cannes. Motif, la société dont il s'agit est contrôlée apparemment par un groupe de 4 sociétés immobilières monégasques, elles-mêmes contrôlées, administrées et dirigées par Skolnikov. Le procureur, donc la République française restaurée, si vous voulez, confie la gestion des hôtels au domaine. Et le 9 mai 1945, Martinez est condamné par la Cour de justice de Grasse à 20 ans de travaux forcés pour collaboration avec l'ennemi. Il est condamné à l'indignité nationale ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de séjour dans les Alpes-Maritimes. Entre parenthèses, il faut le mentionner, c'est peu de temps après, en juin 1945, que le corps de Skolnikov, de son côté, est retrouvé carbonisé en Espagne. Je dis le corps de Skolnikov, nous allons voir qu'on ne pourra pas affirmer ça avec certitude. Retour sur M. Martinez. Le 19 mai 1949, il est convoqué devant la Cour de justice de Lyon. À l'époque, il vivait en exil à Londres. Il va devoir répondre en appel de ce chef d'intelligence avec l'ennemi. Or, cette fois, il est acquitté et remis en liberté. Pourtant, son hôtel ne lui est pas rendu. Emmanuel Martinez retourne au Martinez, si je puis dire. Bertania est là, qui veille, qui l'empêche d'entrer, qui le fait intercepter par la police, d'où un certain nombre d'actions en justice en vain. Or, le 10 juin 1951, un décret va rendre possible, sous certaines conditions évidemment, la révision de décisions intervenues au moment de la libération. Il s'agit de remettre un peu de l'ordre dans l'épuration, si je puis dire. Et M. Martinez se dit qu'il va peut-être obtenir la levée du séquestre. Eh bien non, parce que les héritiers de Skolnikov entravent la procédure. Le fameux Grégoire, notamment, rappelez-vous, le frère, accuse dans une lettre à sa nièce, je cite, « Monsieur Martinez de faire pression via l'ambassade d'Italie sur le ministre des Finances, à l'époque c'était Michel Debré, pour séparer l'hôtel de la masse successorale et le lui rendre contre une somme qu'il versera pour sa co-responsabilité. » En vérité, l'État italien ne parvient pas à aider efficacement Emmanuel Martinez. Au moment même où celui-ci meurt en 1973, la République française admet qu'elle n'a plus les moyens d'entretenir le Martinez. Alors il va être vendu, je vous passe les détails, le groupe Concorde, la famille Tettinger qui va devenir propriétaire seulement en 1981 et qu'il vendra par la suite à un fonds d'investissement américain. Laissez-moi revenir plutôt sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 1973. Arrêt qui confirmait une ordonnance de non-lieu dans le procès intenté par Grégoire Skolnikov. Je cite l'arrêt. « Aucun document n'établit formellement que Skolnikov Michel ait été avant son décès en Espagne en juin 1945 propriétaire de la quasi-totalité des actions de la société de l'hôtel Martinez, considérant qu'en tout état de cause, la preuve de la vente des actions de Martinez à Skolnikov n'est pas rapportée. » C'est quand même étonnant, la famille Skolnikov est déboutée, et la preuve n'est pas faite que Martinez aurait vendu son hôtel. Concernant la dette, le tribunal estime qu'elle a été remboursée en 1968 et qu'il y a même eu un trop-perçu. En définitive, nous dit Pierre Abramovici, il ressort de manière quasi mathématique que l'hôtel Martinez devait être restitué à son propriétaire au plus tard en 1968, comme n'avait pas manqué de le souligner la direction des impôts et le ministère des Finances. Malheureusement, ou peut-être heureusement pour lui après tout, cet arrêt de justice en sa faveur, Emmanuel Martinez n'a pas pu le lire, car au moment de sa publication, il était mort depuis 3 semaines. Bonjour Pierre Abramovici.
Bonjour.
Une affaire assez nébuleuse que j'ai tenté de résumer à grands traits. Il y en a comme ça un certain nombre dans votre ouvrage, car Skolnikov était au cœur de toutes les magouilles de l'occupation. Nous y revenons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de l'affaire Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Pierre Abramovici, historien et grand reporter, auteur de Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, justement aux éditions Nouveau Monde.
Avant de venir à la personnalité de Skolnikov, à tout ce qu'il a pu faire pendant l'occupation, aux grandes questions que pose son destin, j'aimerais que nous apportions en quelque sorte une conclusion à cette affaire du Martinez. Pierre Abramovici, vous me disiez à l'instant, raconter comme ça, résumé, ça paraît effroyable.
Ça l'est d'autant plus qu'il existe des descendants et que sa fille est toujours vivante. Elle a passé 90 ans. C'est une vieille dame qui vit très modestement avec quelques centaines d'euros par mois. Et on lui réclame 23 millions d'euros d'arriérés pour une procédure qui ne devrait pas exister. Sachant qu'on lui réclame ces 23 millions d'euros additionnés de 400 000 euros mécaniquement chaque année. Et cette dame, on pourrait se dire, on pourrait l'amnistier par exemple. Et on ne peut pas. On ne peut pas parce que les comptes n'ont jamais été faits, parce que l'État n'a jamais été capable d'apporter une comptabilité. Et donc aujourd'hui, les héritiers passent en ce moment, en 2014, donc 70 ans après les faits, au mois de février de cette année, ils passent au tribunal et ils réclament justice une fois de plus. Ils ont toujours été déboutés, ça n'a jamais fonctionné. Et là, on peut espérer, et là pour le coup, sans prendre parti, mais objectivement, ces gens sont innocents, cet homme était innocent et l'État est coupable.
Alors en tout cas, l'État a gardé en quelque sorte un bien qui n'était pas le sien. Cette affaire va venir à la une de l'actualité dans les semaines qui viennent, nous dites-vous. Et j'espère que nos auditeurs, grâce à cette émission, comprendront un peu mieux ce dont il s'agit, parce qu'à mon avis, ça va être compliqué d'expliquer ça dans le cadre notamment des journaux télévisés. Ça va être, c'est une affaire très complexe, très nébuleuse. Ce Skolnikov est bien à l'origine de cette espèce de prise de possession par l'occupant allemand de tous les fleurons de l'hôtellerie française.
Alors oui, c'est exact. Simplement, il faut comprendre le contexte qui est important. L'occupation, on a toujours l'idée du soldat allemand qui vient faucher les poules et la voiture dans la ferme ou qui vient s'emparer d'un appartement. Ça ne se passe pour l'essentiel pas du tout comme ça. Pour l'essentiel, Skolnikov et un certain nombre de ses pareils sont des intermédiaires qui ont des masses considérables d'argent. Cet argent, c'est le nôtre, c'est celui de l'État français. L'État doit payer une dette quotidienne de l'ordre de 400 à 500 millions par jour. C'est considérable.
C'est ce qu'a obtenu Hitler, il a mis la France à genoux là, de ce point de vue.
Ces 400 à 500 millions par jour sont supposés être l'entretien de l'armée allemande. Il faudrait donc imaginer 18 millions de soldats, il n'y en a évidemment pas. Et les Allemands disposant de cette masse considérable, absolument gigantesque d'argent, payent 10 fois la valeur de tous les biens qu'ils achètent.
On leur vend tout très cher.
On leur vend tout très cher.
C'est ce que dit d'ailleurs Göring dans des notes qu'on a sur une réunion privée. Il dit on nous vend tout à un prix démentiel.
Absolument. Mais de toute façon, ils s'en foutent, si j'ose dire.
Oui, parce qu'ils l'ont l'argent.
Donc. C'est notre argent. Et donc, si vous voulez, des hommes comme Skolnikov, il y en a un certain nombre, ce sont des intermédiaires. Quand Skolnikov sort 500 millions pour acheter quelque chose, en fait, il verse 499 millions à un industriel, disons du textile, qui a été sa grande entreprise, et en contrepartie, garde 1 million de commissions. Petite parenthèse en passant, c'est l'argent.
Il garde si peu de commissions ?
Oui, mais il faut voir ce que représente. Quand vous dites si peu, justement, le salaire ouvrier est de l'ordre de 12 à 15 000 francs par an. Le salaire d'un directeur de banque à Paris à l'époque est de l'ordre de 30 000 francs par an. Skolnikov touche aux alentours d'1 million par mois. On est dans un registre sans aucune commune mesure, avec rien. C'est à ce moment-là, et sans doute à la fin de la guerre, l'un des hommes les plus riches de France.
Oui. Vous comparez sa fortune à certaines personnalités actuelles, les très grandes fortunes françaises. Bon. Alors, en l'occurrence, comment cette fortune l'a-t-il constituée ? Il faut revenir un peu sur ses origines. Il est originaire donc de Biélorussie. À l'époque, on est dans le bloc soviétique. Au moment où il naît, c'est encore l'Empire des Tsars, évidemment, en 95.
Absolument, il est dans l'Empire des Tsars. C'est une famille petite bourgeoise, dirons-nous, un peu aisée. Et alors, cette question, effectivement, du judaïsme de Skolnikov est importante parce que ce groupe socio-historico-politique des Karaïtes, dont il se revendique, ce sont des juifs
qui... c'est le karaïsme, c'est le un karaïsme. Des courants du judaïsme, en fait.
C'est un courant très minoritaire. Mm-hmm. Et ce courant a la particularité dans l'Empire russe d'avoir été reconnu. C'est-à-dire que ces gens, à la différence de tous les autres juifs qui font l'objet de persécutions, n'en font pas partie, et sont des sortes de petits bourgeois autorisés.
Des juifs autorisés.
Absolument autorisés, à tel point qu'ils finissent au début du XXe siècle, après 2 siècles d'existence, à devenir presque antisémites, d'une certaine manière. Ils veulent absolument sortir du judaïsme. Au point qu'en 1934, les Allemands décident qu'ils ne sont pas juifs. Donc les Karaïtes ne sont pas juifs. Donc Skolnikov, techniquement, pour les Allemands, n'est pas juif. Par parenthèse, les Français n'ont jamais entendu parler du karaïsme. Pour les Français, il est juif. Mais en fait, on est juif dans le regard des autres, comme dirait Sartre. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Pour lui, rien. J'ai eu la chance de retrouver sa petite nièce, enfin sa nièce, qui est toujours vivante. C'est une très vieille dame également. Et elle m'a expliqué qu'effectivement, le judaïsme existe, mais qu'ils ne sont pas juifs du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe de reconnaissance de rien. Cet homme, fondamentalement, c'est un homme qui est sans foi ni loi. sans intérêt particulier pour rien.
Il croit à l'argent, aux affaires.
Il ne croit qu'à cela. Et il s'enrichit ou pas selon les moments. Par moment, il s'enrichit, par moment pas. La plupart des rapports sont assez fantaisistes jusqu'aux années 40. Et tout ce qu'on sait, c'est que cet homme, à un moment donné, saisit l'opportunité.
L'opportunité, c'est de fournir du textile à la Kriegsmarine.
Exactement. Et le textile à la Kriegsmarine, parce que ce sont des acheteurs qui payent et qui fournissent de quoi payer aux fournisseurs. Et là, on oublie quelque chose d'absolument fondamental, il y a des fournisseurs. Et ces fournisseurs, c'est la presque totalité de l'industrie textile. Et en l'occurrence, l'un des plus grands fournisseurs, c'est Marcel Boussac, qui est le plus grand textile de France. C'est l'un des hommes le plus riche de France. D'ailleurs, par parenthèse, il va l'être également après la guerre.
Oui, d'ailleurs, ça continuera
jusqu'à sa faillite dans les années 70. Et je dois à la vérité de dire que les renseignements généraux, qui ont toujours très très bien travaillé, ne font démarrer sa carrière qu'en 1956. Il n'y a aucune existence de Boussac avant. Boussac a été blanchi comme tous les industriels, parce que ces gens, en fait, ont profité de l'argent allemand, donc du nôtre, j'insiste, sans
de
la totalité de la société. Cet argent public dont ils ont bénéficié, personne jamais ne leur a demandé de compte. Et l'intermédiaire s'est enrichi grâce à cela.
Alors, ça commence, la grande fortune de Skolnikov commence donc dans les premiers mois de la guerre, dès ce qu'on appelle la drôle de guerre. Ça prend de l'importance au moment de l'offensive allemande. Et ce que j'ai du mal à saisir, et pourtant j'ai bien vous expliqué tout ça dans le détail, mais ça paraît invraisemblable, c'est l'espèce de bascule qui s'opère vraiment très vite dès les premiers mois de l'occupation, en fait. D'où lui vient d'un seul coup cette manne?
C'est cette fameuse manne de la Banque de France. Imaginez, 500 millions par jour, ce n'est pas de l'argent liquide, bien sûr, ce sont des bons porteurs. Qui fournit? Le gouverneur allemand de la Banque de France, qui a été nommé en milieu d'année 40, vers septembre-octobre 40. Donc cet homme donne, disons, 50 millions, admettons. Il faut imaginer, on part pas avec une valise. Donc ce sont des bons porteurs, 50 millions, 100 millions sont des sommes considérables. On voit sur les documents les bons, les reçus. Skolnikov part avec des sommes qui sont gigantesques. Et avec ça, il achète.
Alors, ce qui est intéressant, si vous me permettez de faire une petite parenthèse tout à fait historiciste, c'est que ce phénomène, on ne le constate pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi qui connais beaucoup mieux les guerres du XVIIIe siècle, disons-le, on avait exactement la même chose. Et je sais aussi que c'était la même chose, par exemple, au XVIe siècle. C'est-à-dire que si vous regardez les grandes fortunes liées aux guerres, ce sont d'abord les fournisseurs aux armées. Dans un deuxième temps, ce sont tous ceux qui vont être ce qu'on appelle les profiteurs de guerre. Alors là, qui font des fortunes colossales, et ces fortunes, généralement, elles sont investies dans le foncier. C'est une tradition, on pourrait dire, multiséculaire. Ça n'est pas une particularité de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que là, avec la rapidité de la guerre et avec l'énormité des encours financiers, ça prend des proportions, on peut dire, alors là, sans précédent.
Sans précédent, et Skolnikov agit de manière extrêmement moderne, pour le coup, puisque les Allemands ont investi la principauté de Monaco avant-guerre. J'ai même récupéré, si j'ose dire, des preuves de la présence de Göring.
Vous travaillez aux archives de Monaco, vous, il faut dire ça.
Absolument, j'ai obtenu l'autorisation du palais princier de pouvoir aller regarder là-dedans, et c'est tout à fait saisissant, c'est-à-dire que Göring vient, en 39, et on comprend qu'il vient rencontrer d'éventuels complices, sans doute d'ailleurs des étrangers qui sont installés là depuis assez longtemps. Il y a très peu de monégasques au courant à ce moment-là. Ça concerne peut-être une demi-douzaine de personnes. Simplement, ces gens participent de la création, en quelque sorte, d'un lieu d'accueil à travers des holdings financiers. Et ces holdings financiers, c'est un système très très moderne. C'est-à-dire, vous mettez des prête-noms, des gens bidons qui sont là payés 20 francs, 50 francs à l'époque. Et puis, vous avez un ou deux authentiques réels actionnaires. Donc, on verra apparaître Blanchet, notamment le bras droit de Skolnikov, puis Skolnikov lui-même. Et à travers ces holdings, donc dissimulés derrière le paravent, il achète et il se met à acheter donc l'hôtellerie de luxe. Et puis, il achète des quantité inouïe d'immeubles. Par exemple, nous sommes ici à Europe 1, et bien tout le quartier autour de nous appartient à Skolnikov. Tout le quartier.
À l'époque, oui.
77 immeubles autour de nous. C'est quelque chose d'énorme, considérable. Le quartier des Champs-Élysées, de l'Étoile, etc.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le Triangle d'Or, c'est-à-dire les rues les plus chères de Paris, pour parler clair, c'était propriété, pas exclusive, mais en grande partie de Skolnikov.
Oui, on dirait 80-90%.
C'est incroyable.
La rue Marbeuf, qui est derrière chez nous, lui appartient presque à 100%. C'est quelque chose d'inouï. Et ses achats, la vraie question, est-ce pour son propre compte, ou pour celui des Allemands, ou les deux?
Oui. Et qui est... Ça, c'est la vraie question, mais il y en a une deuxième vraie question, c'est qui le protège aussi?
Alors voilà, Skolnikov, il a deux choses dans sa vie. La première, c'est qu'il a une maîtresse, qui est importante, puisqu'elle va lui présenter la marine allemande. Elle est allemande, ça tombe bien. Et puis, il a un ami, et cet ami est un SS, qui s'appelle Fritz Engelke, et ce SS va le protéger des Français. ceux qui précisément pensent qu'il est juif. Donc il est arrêté deux fois, les SS le sortent, puisque pour les Allemands, il n'est pas juif. Et Engelke, là aussi, il y a une énigme. Travaille-t-il pour lui seul, pour son propre compte, ou pour le gouvernement, voilà. Pour l'armée allemande? C'est toute la question. On ne sait pas très bien si Skolnikov n'est pas simplement associé à un escroc allemand qui se trouve être un SS, ou s'il travaille intégralement pour les SS ou les deux à la fois.
Et ça, vous n'avez pas réussi à l'établir.
J'ai trouvé, peu de temps avant la publication de cet ouvrage, quelque chose d'étrange qui montre que Engelke est mis à la retraite d'office par Himmler lui-même, ce qui est quand même extraordinaire, à deux semaines après le débarquement, ce qui est quand même d'autant plus extraordinaire, mais pas à la retraite d'un officier SS, et que cet homme va partir retraité, mais promu tout de même, en Espagne, aider son ami Skolnikov qui est en prison, ce qui est surprenant pour un retraité.
Ce qui est saisi à Skolnikov à la libération représente une somme, je l'ai dit tout à l'heure, absolument gigantesque. C'est inouï. Hein.
Bah, si vous prenez en euros constants, on va dire, tout compris, ça représente à peu près 1 milliard d'euros. En vérité, en pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de 15 à 20 milliards.
Ah oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte économique.
Dans le contexte économique, c'est ça.
Alors, comment s'est effectué le séquestre? Quelles ont été les conséquences? Parce qu'on a parlé de l'hôtel Martinez, mais c'est loin d'être le seul cas. C'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Place sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Un héros très discret, sorti en 1996 et réalisé par Jacques Audiard avec comme acteur principal Mathieu Kassovitz.
Alors justement, il y a un certain nombre de figures auxquelles on pense lorsqu'il est question de ces énormes manipulations et de ces affaires très louches de l'occupation. On pense à Joanovici, puisque c'est toujours lui dont on parle. Pourquoi est-ce que lui est si célèbre et que Skolnikov est quasiment inconnu?
Ah, c'est très très simple.
Enfin, il était inconnu jusqu'à votre livre, Pierre Abramovici. Hein.
L'un est vivant, l'autre est mort. C'est aussi simple que ça. Joanovici, c'est un grand procès. Un procès qui fait 2 ans après les faits.
À l'époque, quand vous parlez toujours au présent de l'indicatif, mais à l'époque, hein.
À l'époque,
l'un est vivant et l'autre est mort.
Nous sommes 2 ans après la guerre.
C'est ça, voilà.
Joanovici fait donc l'objet d'un procès à grand spectacle. Il est le symbole de tout cela, des vols, du pillage, etc. Accessoirement, il est juif, donc on retrouve à peu près le même schéma. Et en gros, Joanovici pèse un peu moins d'1 milliard de francs de l'époque, c'est-à-dire 4 fois moins que notre homme.
C'est ça, hein.
Et d'ailleurs, plusieurs autres séquestres sont plus importants d'ailleurs que celui de Joanovici, mais il est là, il est physiquement présent. Donc vous aurez des téléfilms, des films de fiction, des articles, des livres, notamment le livre d'Alphonse Boudard qui lui est consacré. Et Boudard raconte sur Skolnikov absolument n'importe quoi. Notamment un très joli texte dans lequel il décrit Skolnikov comme un blond arien, tout à fait allemand, ce qui est tout à fait faux.
On a la photo là sur la couverture, c'est pas ça ressemble
il
pas.
Il n'est absolument pas blond à rien, mais ce que Joanovici devient ce symbole de cette espèce de monde, je dirais interlope, apatride, qui n'est pas si inintéressant de dénoncer même des années après. Après tout, je rappelle, j'ai découvert ça, je l'ignorais. Il y a eu même des manifestations antisémites dans la France d'après 1945, dans le 14e et 15e arrondissement. De pauvres gens qui venaient récupérer leurs appartements ont été attaqués en 45. Donc voilà, c'est pas si mal de trouver quelques juifs qui peuvent servir. Alors que Skolnikov, au fond, n'a rien à voir avec tout ça, il n'est pas juif, mais c'est un vrai affairiste.
Je parlais tout à l'heure des archives de la principauté de Monaco, auxquelles vous avez accès. Vous avez compulsé un nombre de cartons d'archives considérables pour mener à bien cette enquête, il faut le dire. Hein.
C'est vrai, c'est-à-dire qu'à l'origine, le livre vient d'un ancien livre que j'avais écrit sur l'histoire de la principauté pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir d'un travail effectué par Jacques Delarue, qui est un grand historien, auteur d'une très remarquable histoire de la Gestapo, et de Trafic et crimes sous l'occupation, écrit en 68. Delarue, très gentiment, il y a des années cela, m'avait donné sa documentation, et ça représentait à peu près 150 pages. J'avais parlé très brièvement dans mon précédent bouquin de l'affaire Skolnikov, mais très peu. Et puis, pour différentes raisons, j'ai été amené à pouvoir travailler grâce au prince Albert qui a souhaité une sorte de clarification sur la Seconde Guerre. Et comme j'étais spécialisé sur cette question, il m'a autorisé à rentrer dans toutes les archives de la principauté. J'ai découvert beaucoup de choses tout à fait passionnantes. Et incidemment, en quelque sorte, le supplément, l'affaire Skolnikov. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher. Nous sommes passés de 150 pages à 2 millions. Ce qui est assez différent, j'avoue.
Il a fallu faire le tri dans tout ça. Vous arrivez à vous y repérer dans ces affaires extrêmement complexes, avec des noms qui ne sont pas toujours les vrais, avec beaucoup d'aspects nébuleux, bien entendu. Oui. Un certain nombre de transactions se passaient d'ailleurs sans archives.
Oui, tout à fait. C'est très difficile. L'un des éléments majeurs, et d'ailleurs je le souligne à plusieurs reprises dans le livre, c'est que les témoignages sont ceux de témoins ou de complices de la période qui, après-guerre, cherchent à se dédouaner et se dénoncent les uns les autres. Et il y a notamment un moment tout à fait charmant, ils sont tous résistants. Tous. Et d'ailleurs, Skolnikov, c'était pour le protéger. C'était un juif caché, donc il fallait l'aider. Donc on l'aidait moyennant finance, certes beaucoup.
Oui, on l'a beaucoup aidé, beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire.
Beaucoup.
Alors, on suit évidemment le parcours de ce Skolnikov, autant qu'on peut le faire. On évoque, vous l'avez, j'espère qu'avec cette affaire du Martinez, on l'a illustré, vous l'avez redit, on évoque le rôle de l'État dans cette affaire, un rôle qui a été particulièrement bizarre en 1944 et 1945, il faut quand même le dire. Et puis, l'on parle aussi, et c'est toute la dimension monégasque de l'affaire, des paradis fiscaux, d'une certaine manière.
Alors la notion de paradis fiscal n'existe pas à l'époque.
Non.
Ça va exister dans les années 60. Donc Monaco n'est pas un paradis fiscal au sens strict. Et d'ailleurs, il ne le sera pas, en fait. Mais il est, pour les Allemands, un endroit commode. Et c'est la raison pour laquelle les Allemands vont préserver la neutralité monégasque. Il est important de savoir qu'à Monaco, à la différence de tout ce qui se dit même encore aujourd'hui, les Allemands ont été très gentils. Sauf avec les Juifs, ils ont déporté 293 Juifs sur 1000 tout de même. Mais ce sont les Italiens qui se sont mal comportés. D'où une série de problèmes que les Italiens ont connus et Martinez. Les Allemands ont donc préservé cette neutralité, en vérité pour en faire une place financière entièrement soumise à leur desiderata, et notamment en voulant créer une banque allemande, en voulant créer ce conglomérat hôtelier à partir des holdings monégasques de Skolnikov et de profiter de ces holdings pour pouvoir acheter sur le territoire français sous couvert toute une série de parties hôtelières ou de parties immobilières. Le fonctionnement de la principauté est donc très moderne pour les Allemands, et les Allemands vont pendant 4 ans en quelque sorte utiliser dans d'autres secteurs, je l'ai trouvé par exemple sur les vins et spiritueux, sur des tas de choses, comme un, je dirais, comme une zone de préservation de la sécurité. C'est-à-dire qu'on est sûr que là, l'argent est là, il va pouvoir transiter, personne ne le verra. Mais pour le compte de qui? C'est toujours la vraie question. Sont-ce les Allemands ou Göring à titre personnel pour leurs propres intérêts? Car il faut se souvenir que ces gens étaient d'abord des voleurs et des pillards.
Ça ne peut pas ne pas faire songer à ce qui s'est passé pour ce qui est des œuvres d'art, hein. Qu'il s'agit des œuvres d'art privées ou des œuvres d'art dans les musées, on se pose le même type de questions, il y a les mêmes zones d'ombre, et Göring se trouve à chaque fois au cœur de ces questions, hein. C'est vraiment c'est lui le grand homme d'affaires, le Manitou financier du Reich, en fait, hein.
Il y a une raison. Il est d'abord, avant-guerre, il est nommé ministre du plan de 4 ans, c'est-à-dire qu'on lui donne 4 ans pour réarmer. Et de là, il devient ministre des Finances. En d'autres termes, l'économie allemande qui est basée sur le pillage et le vol, et Göring le dit, je rappelle un texte effectivement de Göring à ses officiers, Göring dit il faut piller la France.
Oui, il ne faut pas se gêner.
Et du tout. Et effectivement, ce système de pillage est organisé avant même l'occupation, et on se sert de toutes les structures possibles. Vous avez Monaco, vous avez aussi le Liechtenstein, le Luxembourg et un canton suisse qui servent à cela.
Alors, nous avons bien dit que Skolnikov avait cette fortune phénoménale. C'est la plus grande fortune de France au moment de la libération. Tout ça est mis sous séquestre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une saisie judiciaire. C'est la plus grande saisie, le plus grand séquestre de l'histoire?
C'est le plus grand séquestre de
l'histoire de France, en tout cas, de la Seconde Guerre mondiale.
Absolument, tout à fait. Aucun n'a été aussi important, et l'amende est en rapport. Amende plus ce qu'on appelle les intérêts moratoires, c'est-à-dire les intérêts postérieurs, représente 6 milliards de l'époque. C'est-à-dire, donc, si on vous dit, encore une fois, à peu près 1 milliard d'euros, mais j'insiste, près de 15 milliards à peu près d'euros de pouvoir d'achat, disons.
Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que pour la République restaurée en 1944, c'est quand même, si j'ose dire, attention, je ne voudrais pas, mais un peu une bonne affaire quand même, cette histoire.
Bien sûr, bien sûr. Le Pierre Mendès France, qui est ministre des Finances...
J'y vais sur la pointe des pieds,
non,
mais
vous avez
pas
raison.
Du tout, hein.
Pierre Mendès France, qui est ministre des Finances à l'époque, démissionne en 1944, et il est remplacé par René Pleven, et il transmet une sorte de testament politique au général de Gaulle et à Pleven sur le thème « il faut récupérer l'argent, ils doivent rendre l'argent ». Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle la confiscation des profits illicites. Vous avez 35 000 affaires pour la seule ville de Paris. C'est-à-dire que nous ne parlons pas des quelques milliards de Skolnikov, nous parlons de sommes gigantesques.
C'est incroyable.
Et cette marée d'argent va être essentiellement prise à des petits. Parce qu'en fait, tous les gros, c'est-à-dire essentiellement les industriels, vont passer à travers. Et pour une raison précise, pour ce qui concerne Skolnikov, c'est le textile, c'est comme si on les séquestrait, c'est comme si on nationalisait la totalité de l'industrie textile. On ne peut pas.
Il y a donc une forme d'immunité en quelque sorte.
Total, les industriels sont passés à travers. Très
pas
peu
tous,
sont
pas tous. Hein.
Non, oui,
on a parlé de
symboles.
Louis Renault à ce micro.
Oui,
en fait,
mais il y a peu d'industriels résistants, comme par exemple Ricard. Ricard qui galope à cheval en criant « J'emmerde Pétain et les collabos ». Ils sont peu nombreux, vous savez. Mmh. Et il y a une raison. Rappelez-vous, nous sommes en 2014 et à l'époque, la guerre dure 4 ans. Pendant 4 ans, c'est très long 4 ans. Pendant 4 ans, on pense que les Allemands, au moins pendant 2 ans, gagnaient la guerre.
On ne connaît pas l'issue des opérations, bien sûr.
On n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer. Et donc, l'opportunité de faire de l'argent et de faire des fortunes, ou tout simplement de continuer ses affaires, est là.
Alors, j'ai dit que ce Skolnikov était mort en juin 1945. On retrouve son corps carbonisé à Madrid. Mais vous émettez, vous, certaines réserves là-dessus. On n'est pas sûr que ce soit lui. Hein.
Le livre est déjà écrit. On est au mois de décembre et je décide d'aller voir sur place. Donc, j'y vais. Et j'ai vraiment une surprise, réellement. D'une part, imaginez, nous sommes à 45 km de Madrid. À l'époque, c'est la route nationale numéro 1. C'est pas une autoroute, mais quand même. En gros, aujourd'hui, il faut 40 minutes. À l'époque, il fallait 2 heures. Pour une raison obscure, on fait l'autopsie de cet homme. 4 heures après sa mort décrétée, une demi-journée après sa disparition annoncée. Donc, voilà, on l'autopsie, mais on l'autopsie là. On va pas l'autopsier 40 km de là, à l'Institut médico-légal de Madrid.
De Madrid, ce serait tellement plus sûr.
Le médecin, qui à l'époque est un médecin appointé par les autorités, découvre tout, lui, il sait tout. Il sait qu'il est mort il y a 4 heures, il est formidable. Ce cadavre, au lieu de le ramener, on le laisse et on fait venir sa famille, qui identifie un corps carbonisé. Moi, je suis sûr que vous êtes capable d'identifier un membre de votre famille avec ses dents ou ses empreintes digitales. Eh bien, son frère, oui. Son frère l'identifie, donc. Et le corps, curieusement, cette fois-ci, est ramené à Madrid. Puis, re-ramené dans le village. Et quand j'arrive au mois de décembre, donc il y a quelques semaines, j'ai fait un truc un peu pas terrible, j'ai regardé dans la tombe, et j'ai trouvé que mon homme avait 3 têtes et une jambe.
Oh là là.
En d'autres termes, c'est une fosse commune où il n'y a pas un corps, mais n'importe quoi. J'ai retrouvé des fils électriques et des gravats. Est-il enterré là? Curieusement, en 1945, le médecin qui a pratiqué l'autopsie a été muté.
Dire que vous êtes allé creuser vous-même dans la
tombe? Même pas, elle était ouverte, il y avait un trou, et j'ai regardé dans le trou avec la lampe du téléphone portable.
On annonce ces choses à ce micro, c'est
avec la lampe du téléphone portable. Et donc le médecin qui a fait l'autopsie a été muté un mois plus tard. Il y a un mois après les faits, plus personne capable d'identifier le cadavre.
Oui, c'est quand même louche, surtout quand on n'oublions jamais qu'on parle d'un homme immensément riche, donc qui a tous les moyens d'avoir les complicités les plus... Et on est en Espagne, qui plus est, en 1945.
La conclusion est simple, on a trouvé des traces d'un compte en banque toujours actif à Buenos Aires en 1954.
Ah, voilà. Bon, eh bien, ça ferait presque un addendum à votre ouvrage. C'est un épilogue radiophonique. Il y a encore des choses à découvrir, comme ça, vous pensez?
Oui, beaucoup, oui. Je crois.
Ouais,
je crois, donc des quantités de comptes en banque très bien fourni.
Ce sont des sujets sans fond, en quelque sorte, avec des tiroirs qui, en tout cas, ont de doubles fonds. Hein.
En tout cas, ce sont de belles histoires.
Ouais. Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, c'est donc la nouvelle enquête historique de Pierre Abramovici. Nous avons parlé du Martinez, nous avons évoqué les circonstances de son décès pour le moins nébuleux. Il y a bien d'autres affaires dans ce livre, je tiens à le dire, parce qu'on croirait qu'on a épuisé le sujet, c'est loin d'être le cas. Nous n'avons fait qu'entrouvrir l'ouvrage, bien entendu. Merci beaucoup, Pierre Abramovici.
Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Julien qui voudrait savoir si la façon de parler des Québécois d'aujourd'hui reste proche de celle des Français du temps de Louis XIV.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julien, qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1, qui s'interroge sur l'évolution de l'accent français. À l'époque de Louis XIV, la façon de parler des Français était-elle proche de l'actuel accent au Québec?
Oui, c'est ce qu'on dit. Vous savez, ça fait partie un peu des rumeurs, si je puis dire. On dit, mais vous savez, quand vous voulez imaginer à quoi ressemblait le parler des courtisans à Versailles sous Louis XIV, allez à Montréal et puis vous écoutez les gens parler, ça vous donnera une idée. Alors, moi, j'ai souvent émis les plus grandes réserves sur cette conclusion. On sait que la France a commencé à coloniser le Canada au XVIe siècle, qu'elle en est partie avec le traité de Paris en 1763, que depuis les Québécois ont constamment dû se battre pour préserver le français comme langue officielle. Or, lorsque les pionniers entament la colonisation de la Nouvelle-France, comme on l'appelait à l'époque, ils viennent de provinces françaises diverses. On serait donc tenté d'imaginer qu'ils parlent plus normand, breton ou le patois poitevin qu'autre chose. En fait, ça n'est pas si simple, parce que d'abord, à l'époque, il n'existe pas dans toute la France une langue unique. Vous avez le parler parisien, le parler de la cour, bien entendu, et puis ensuite, chaque chaque pays, chaque région a sa façon de parler, notamment de prononcer le français, français plus ou moins pur. On a des témoignages, ça c'est assez étonnant, et c'est, il faut rendre hommage à Mathilde Salle de Chou qui nous a trouvé tout ça. On a des témoignages qui permettent de se faire une idée de ce qu'était ce langage. C'est Bagville de la Poterie, qui est contrôleur de la marine et des fortifications du Canada. Il écrit en 1702, on parle ici parfaitement bien, sans mauvais accent. Il ajoute, quoi qu'il y ait un mélange de presque toutes les provinces de France, on ne saurait distinguer le parler d'aucune dans les Canadiennes. Quant à Bougainville, il dit « leur accent est aussi bon qu'à Paris ». C'est quand même étonnant, vous voyez donc qu'ils ne parlent pas un patois particulier. « Leur diction, dit-il, est remplie de phrases vicieuses empruntées à de la langue sauvage ou des termes de marine ». Bon, ça c'est pour les termes employés, ça n'a pas changé d'ailleurs. Mais l'accent, semble-t-il, si l'on en croit tous ces témoins, il y en aurait d'autres, je ne vais pas tous vous les citer, il semblerait que cet accent soit le plus pur qui soit et qu'il ressemble réellement à celui de la cour de France. Alors là, je dois faire un mea culpa et dire que, effectivement, peut-être bien que nos cousins québécois parlent aujourd'hui le bon François qu'on parlait autrefois à la cour de Versailles.